Dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, on s'intéresse aussi à ce qui se passe à l'intérieur des logements et au rôle de l'architecte d'intérieur. C'est tout l'objectif de cette séquence tendance et design. Le sujet de ce mois-ci concerne le parquet avec cette question. Est-ce que c'est un revêtement éco-responsable ? Pour répondre à cette question, on accueille Erika Dubois. Bonjour.
Bonjour.
Qui est donc la fondatrice d'Erika Design et vous êtes aussi adhérente au pôle action des architectes d'intérieur d'Île-de-France. Donc déjà, comme toujours, c'est traditionnel, vous présentez évidemment en quelques mots.
Oui, alors bonjour, je suis donc Erika Dubois, architecte d'intérieur diplômée de Lesam Design. J'ai créé mon agence Erika Design, basée en Île-de-France. Je me dirige plutôt vers des particuliers et comme j'adore jouer au Tetris, je suis plutôt spécialisée dans les petites surfaces.
D'accord, je vois ça très concrètement. Alors justement, on va faire du Tetris avec les parquets, c'est plutôt pas mal ça, parce que finalement c'est le sujet. Peut-être avant de rentrer dans le détail aussi sur les particularités du parquet, se demander s'il est éco-responsable, un petit peu d'histoire, c'est toujours bien à rappeler à nos auditeurs.
Tout à fait. Alors, le parquet, comme on le sait, ou en tout cas le bois, est un matériau qui est connu depuis la nuit des temps. Et pour ses qualités notamment isolantes, sa robustesse. Donc il est utilisé depuis toujours. Dans l'architecture, on l'utilisait ce qu'on appelait à l'époque en plancher. C'était pas encore du parquet, c'était des planches de bois clouées les unes à côté des autres qui permettaient d'isoler. Alors principalement les étages, on l'utilisait moins en rez-de-chaussée, mais on l'utilisait pour tout ce qui est étages, escaliers, tous ces besoins en fait. Il a évolué au fil du temps et il deviendra parquet finalement au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, ou en tout cas il sera connu tant que tel, grâce au château de Versailles.
Alors on n'est pas sur la petite surface là quand même.
On n'est pas sur la petite surface. Et là, quelque chose d'assez exceptionnel, en fait on ne travaille plus le parquet comme des planches brutes, on va vraiment s'en servir comme un élément décoratif. Ça va vraiment devenir un travail, un mélange de dimensions, un mélange d'essences qui vont créer un motif spécifique et qui ne sera plus uniquement fonctionnel, mais qui sera en même temps décoratif. Et là, va s'en suivre une course, finalement, avec tous les châtelains de l'époque, les aristocrates qui veulent tous leurs motifs plus beaux les uns que les autres. On peut retenir parmi eux, notamment, le parquet Chantilly ou le parquet Arenberg. Ensuite, le parquet continue d'évoluer. Mmh. Il se démocratise un petit peu, ou plutôt il s'embourgeoise. On va le retrouver notamment dans tous les immeubles haussmanniens, grâce à Haussmann. Là, on va découvrir le superbe motif Point de Hongrie, qui est toujours très tendance et très publicité de nos jours. Il continue sur l'évolution.
On arrive au XXe siècle.
C'est ça, on arrive au XXe siècle, l'industrialisation, la mécanisation. Et là, tout le monde le connaît, ce superbe petit parquet à damier, dans les immeubles des années 50, 60, 70 plutôt. C'est un parquet qui est vraiment révolutionnaire puisque c'est un parquet collé. Il est engendré notamment par l'évolution de l'architecture et par le chauffage au sol. Il fallait trouver une autre solution, on ne pouvait plus poser un parquet de manière mécanique, le clou au sol, donc il fallait trouver une autre astuce. Et petit à petit, avec la démocratisation du parquet, la démocratisation surtout des grandes surfaces de bricolage, l'envie de tout faire soi-même, on a vu l'apparition des parquets flottants et des parquets clipsables.
Ça, c'est bien pratique.
C'est très pratique quand on veut le faire soi-même, effectivement.
Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu l'évolution. Donc on a vu comment on est arrivé finalement vers des produits qui étaient un petit peu plus travaillés, on va dire. Et maintenant, alors on est au XXIe siècle, on va voir avec vous, Erika Dubois, quels sont les trois grands types, on va dire, de parquets.
Tout à fait. Alors on retrouve vraiment trois grands types de parquets. Alors le premier qu'on a cité, forcément, c'est le massif. C'est le plus ancien, c'est tout simplement une planche de bois qui est posée de manière mécanique, donc soit clouée. On peut aussi le retrouver en pose collée. C'est un parquet qui présente l'avantage de pouvoir être rénové plusieurs fois puisqu'il est épais, c'est du massif, donc on peut le poncer, le reponcer et le reponcer. Donc ça, c'est la première gamme. La deuxième gamme, suite à l'évolution, c'est le contre-collé. Donc là, en fait, on a une couche de bois noble qui est collée sur un support en bois et un contrebalancement. C'est un parquet qui reste vraiment techniquement efficace. On peut aussi le rénover. Et là, c'est plutôt une pose collée. On peut le retrouver aussi en pose flottante, mais on ne peut pas le clouer. Et enfin, on a, alors, il est dans la catégorie parquet et il ne devrait pas y être, c'est le stratifié.
Ah oui, d'accord.
Alors là, c'est vraiment pas un papier, puisque si on regarde, finalement, c'est du papier, c'est du support composite, des résines, il y a tout sauf du bois, en fait, dedans.
Oui, donc j'allais dire, celui qui est éco-responsable, c'est justement, c'est le premier, c'est le massif, c'est ça, on peut le dire, un peu.
On peut le dire. Si on se base vraiment que sur le matériau, on peut dire effectivement que c'est le parquet massif.
Alors, mais il n'y a pas que ça. Justement pour ça. Pour juger l'éco-responsabilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme critère?
Alors, certes, il y a le matériau. Déjà, en parlant que du matériau, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, beaucoup d'éléments. Le premier élément, c'est sa provenance et son lieu de transformation. Forcément, si on doit faire venir un parquet de l'autre bout de la planète, s'il doit faire 3 fois le tour du monde, ça n'a rien d'éco-responsable. Donc on va privilégier forcément quelque chose de local. On a ensuite l'essence. Donc c'est pareil, ça vient de la provenance. En France, par exemple, on va plutôt privilégier les parquets en chêne ou les parquets en châtaignier, puisque ce sont des productions locales. Ensuite, on a les labels qui sont là pour nous aider. Donc on a le label FSC et le label PEFC, les deux au niveau européen et mondiaux. Le label FSC, à savoir, c'est pour la gestion des forêts durables et il est obligatoire en France. Donc tous les parquets sont censés être issus de forêts certifiées FSP.
Voilà, donc si on ne le voit pas, c'est qu'il y a un problème.
Tout à fait. Ensuite, dernier point sur le matériau lui-même, on a le type finalement de forêt, parce qu'on a des forêts qui sont à croissance rapide. Ça ira plus spécifiquement sur les parquets en bambou, par exemple, tous les bois exotiques qui vont repousser plus vite, et les forêts à maturation lente. Donc ça, ce sont les premiers points sur le matériau lui-même.
C'est le matériau lui-même. Mais après, vous avez parlé notamment de colle. Et là, il y a une question à se poser aussi.
Tout à fait. Parce que même le parquet massif, finalement, il faut le traiter, il faut le rendre pérenne, il faut le protéger. Donc dessus, on a des colles, on a principalement des vernis ou de l'huile. Et idem pour le contrecollé, forcément, il est contrecollé. Il y a bien colle dedans, donc on a forcément dedans de la colle ou des résines. Donc ces points-là sont à prendre en compte. On développe aujourd'hui des résines, des colles et des vernis naturels, mais ce n'est pas sur la totalité des parquets.
Donc ça, c'est cet aspect-là. Il faut regarder ça un peu de près. Techniquement, c'est plus ou moins qu'est-ce qui peut être réalisable ou pas réalisable. Et c'est là peut-être que l'architecte d'intérieur a un rôle à jouer, parce que celui qui se dit « moi, je veux du parquet éco-responsable », c'est peut-être pas si facile que ça de le choisir.
Effectivement. Alors, c'est pas facile parce qu'on a les contraintes techniques sur le chantier. On a donc toutes les contraintes qu'on a vues pour bien prendre en compte finalement le bon choix de parquet. Sur certaines contraintes techniques, même si on se dit, allez, le plus simple, pour être totalement éco-responsable, on va sur un parquet massif qui est fabriqué localement, qui est brut, on va le clouer pour éviter la colle et on va mettre un vernis ou une huile finalement totalement naturelle. Ben, on peut pas toujours, parce qu'un parquet massif, c'est épais, on n'a pas toujours l'épaisseur qu'il faut. Faut savoir que ça fait donc, en général, on est sur une vingtaine de millimètres, donc de centimètres, on ne l'a pas tout le temps. Il y a le poids aussi d'un parquet massif. Donc on ne peut pas forcément toujours choisir ce qui paraîtrait le plus éco-responsable. Notre rôle derrière, ça va être de dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire sur un chantier pour aller vers le plus de respect de l'environnement possible? Donc prendre tous les critères en compte, les critères techniques du chantier, mais aussi les matériaux sélectionnés par le client. Et c'est là qu'est tout notre rôle, en fait, de prendre tous ces critères en compte, de les mettre bout à bout et de faire la meilleure sélection.
Et j'ai envie de me dire, est-ce que vous, naturellement, vous sentez dans vos clients une demande de plus en plus vers ce type de sujet? Parce qu'on a souhaité le traiter spécifiquement, hein, l'éco-responsabilité.
Tout à fait. Alors, ça se remarque de plus en plus. Il y a quand même un frein, souvent, qui est d'ordre budgétaire, malheureusement. Oui. Alors, comme on le voit, le parquet massif, effectivement, c'est un coût un peu plus élevé que du stratifié ou du contrecollé. Mais ça dure longtemps.
Il faut penser à l'investissement.
C'est
à long
tout
terme.
À fait ça. On essaye de leur mettre cet argument et de leur dire, voilà, c'est du long terme. Votre parquet va tenir le choc. Vous allez pouvoir le rénover s'il y a quoi que ce soit. Un coup de ponçage, un coup de vernis et hop, c'est reparti. C'est une nouvelle vie. Et c'est ce qu'on constate notamment sur les immeubles anciens. Il y a certaines fois, on fait que de la rénovation, c'est-à-dire notamment sur les parquets à damier, que souvent les gens ne veulent pas conserver, mais pourtant, comme ils sont bien collés, ils sont techniquement plus compliqués à enlever et plus coûteux du coup à enlever. Et là, je vais plutôt leur conseiller, ben non, un joli coup de ponçage, un vernis naturel, ou même un vernis blanc, ça va tout de suite redonner du cachet à votre parquet, donc autant le conserver.
Exactement, comme quoi l'architecte d'intérieur a un vrai rôle à jouer, c'est ce qu'on dit aussi dans cette séquence. Ben, merci beaucoup à vous, Erika Dubois, donc fondatrice d'Erika Design, adhérente au pôle Action des architectes d'intérieur d'Île-de-France, pour nous avoir montré, expliqué que le parquet peut être un revêtement éco-responsable, mais non, on a quand même besoin de quelques conseils.